construire un monde plus humain, ça commence par nous. Avec le Crédit Coopératif, ensemble, nous avons ce pouvoir. Le pouvoir du nous.
Que veulent ces marginaux?
Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde.
Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts.
Le boycott?
Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus.
C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir.
Ouais.
Ça commence par moi, l'émission.
Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi c'est Julien et je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes et sur rage.fr. Ce mois-ci, nous parlons de l'impact écologique de nos objets. Des objets de plus en plus chers et souvent de moins en moins durables, trop souvent touchés par le fléau de l'obsolescence programmée. Heureusement, des associations se lèvent pour mettre un terme à ces pratiques nocives et c'est justement le cas de Hop Halt à l'obsolescence programmée dont nous recevrons le président Samuel Sauvage. Avec Samuel, nous discuterons des moyens de se prémunir de l'obsolescence programmée et d'un futur où les produits seraient durables et réparables. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est l'arrivée sur le web d'un anti-Netflix avec le site Imago TV. Quand on sait l'impact écologique désastreux du service de streaming et de son côté hyper addictif, on est heureux de voir qu'il existe des alternatives qui vont dans le sens de la transition et c'est le cas d'Imago TV. Lancée en décembre 2018, la plateforme propose une liste de vidéos en streaming traitant toutes de thématiques sociales ou environnementales. À terme, son but est de devenir ni plus ni moins une chaîne d'information gratuite reposant sur l'intelligence collective. Déjà plus de 2000 vidéos sont disponibles, de quoi nous permettre de continuer à mieux comprendre les enjeux de notre époque pour travailler ensemble au changement des modèles et des mentalités. Si ça vous intéresse, c'est sur www.imagotv.fr que ça se passe. Et moi j'accueille tout de suite Samuel Sauvage, président de Hop Halt à l'obsolescence programmée. Bonjour Samuel.
Bonjour Julien.
Facile de comprendre le but de votre association, tout est dans le nom.
Tout est dans le nom, halte à l'obsolescence programmée. C'est vrai qu'on voulait dire hein, d'un côté stop, il y en a marre, on sent qu'il y a une arnaque qu'on subit tous les jours et qu'il y a des conséquences désastreuses pour la planète. En même temps, on n'est pas que contre, puisqu'on est aussi pour tout ce qui promeut l'allongement de la durée de vie des produits. Donc c'est vrai que dans notre nom, forcément, c'est réducteur. On dit stop à ça, mais on dit oui à tout ce qui permet de lutter contre ça.
Oui, c'est ça. Donc dans les missions de votre association, il y a l'opposition à l'obsolescence et la proposition de solutions. On va le dérouler. Mais concrètement, comment vous intervenez et quelles sont vos missions?
Alors on fait plein de choses, peut-être trop parfois vu qu'on est une petite association.
C'est un bon exercice hein, de devoir de temps en temps présenter en un format assez court les missions. On se dit mais en fait on fait tout ça.
C'est vrai, c'est vrai. Alors on s'est fait connaître et on s'est créé en 2015 pour aussi donner vie à un délit qui existe dans le droit français, celui d'obsolescence programmée. Donc aujourd'hui, il faut le savoir, on est le seul pays au monde qui a ce délit où un PDG dont la firme ferait de l'obsolescence programmée peut aller en prison, peut avoir une amende jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires pour avoir raccourci délibérément la durée de vie de ses produits. Alors nous, on s'est fait connaître en grande partie médiatiquement sur nos plaintes. On a agi contre Apple et Epson en début d'année. Donc ça, c'est une première partie de nos actions. Mais ce qui nous prend finalement le plus de temps, c'est quoi? C'est sensibiliser le public, savoir comment on peut consommer autrement. C'est pousser les entreprises à aller vers des modèles économiques plus durables. C'est pousser le gouvernement à avoir d'autres législations. Toutes ces actions, elles sont fortes. Et puis j'en oublie une quand même, c'est-à-dire sensibiliser le public, oui, mais aussi le conseiller sur qu'est-ce qu'on peut acheter qui va durer, comment on le répare, etc.
Ouais. J'ai le sentiment quand même qu'on a besoin de redéfinir ce que c'est l'obsolescence programmée. Peut-être que pour les gens, ils auront en tête cet exemple qui avait fait beaucoup parler, celui de l'imprimante qui était programmée pour tomber en panne à partir d'un certain nombre de milliers d'exemplaires de feuilles imprimées. J'imagine que cette obsolescence, elle n'est pas que logicielle, elle peut être aussi mécanique, etc., etc. Est-ce que très rapidement, tu peux nous refaire un peu le brief, s'il
oui,
te plaît.
L'idée générale, c'est que l'obsolescence programmée, c'est faite d'avoir un intérêt à raccourcir la durée de vie des produits. Donc le bien, il tombe en panne prématurément. Bien. Alors pour diverses raisons, ça peut être technique, une pièce, une puce qui va compter le nombre d'imprimantes, comme tu le disais, une pièce qui est délibérément fragile, qui va être mise à côté d'une source de chaleur, donc on sait qu'au bout d'un certain moment, par exemple, ça va tomber en panne. Ça peut être aussi indirect, c'est-à-dire que l'objet est impossible ou quasiment impossible à réparer. Et donc ça fait que finalement, il y a des objets aussi où on ne peut pas remplacer les piles, on ne peut pas remplacer la batterie ou des choses comme ça. Et finalement, on les abandonne, ces objets, alors qu'ils pourraient encore servir.
Là, c'est mécanique.
Ça, c'est mécanique, c'est technique.
Ouais.
Et deuxièmement, on a les questions logicielles, qui sont aussi de plus en plus importantes peut-être quand on voit par exemple que pour nos smartphones ou nos ordinateurs, on a des problèmes d'incompatibilité entre un logiciel et puis l'appareil, ou alors le support aussi technique du logiciel, il dure un certain nombre d'années et parfois il est limité dans le temps. Il est toujours limité dans le temps et donc au bout de 3-4 ans, finalement, le logiciel ne va plus fonctionner. Donc là, c'est des questions plus subtiles d'obsolescence, mais qui vont faire qu'on va délaisser, par exemple, un téléphone qui envoie encore des messages, peut encore téléphoner, etc., mais qui, dans ses autres applications, eh bien, ne nous satisfait plus. Mmh. Et puis, il y a quelque chose encore à un niveau supérieur, c'est l'obsolescence esthétique ou la mode, qui nous pousse à délaisser là aussi nos appareils parce qu'on a vu une grande pub, parce qu'on est asséné de signaux marketing. Et finalement, cette obsolescence esthétique, elle est aussi coupable d'un grand gaspillage de ressources parce que finalement, quand on a un téléphone de 70 grammes, c'est 70 kilos de minéraux qui sont utilisés. Quand on a un ordinateur, c'est 200 et quelques kilos. Donc, ce n'est pas juste l'objet qui est gaspillé, c'est toute la matière qui est utilisée, toute l'énergie qui est gaspillée pour fabriquer cet ordinateur et qui est considérable.
Donc vous dites stop à ça et vous attaquez en justice certaines entreprises. Vous proposez aussi, hein, il me semble, des manifestes et vous invitez les gens à vous rejoindre pour dénoncer ça et pour faire masse. Vous avez sorti un livre pour aussi raconter effectivement et détailler tout ce qu'il y a derrière l'obsolescence programmée. Mais tu le disais aussi au tout début, vous accompagnez, vous conseillez, et notamment à travers un site qui est tout récent,
qui s'appelle produitsdurables.fr. Oui. C'est vrai qu'on l'a sorti en décembre et c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore bien fait. Il y avait beaucoup de consommateurs qui nous écrivaient parce qu'ils voyaient qu'on était spécialisés de ces questions d'obsolescence. Ils nous disaient, eh bien voilà, moi je vais acheter un four, je vais acheter une machine à laver et qu'est-ce que j'achète? Et nous, ben, on ne sait pas. On ne sait pas comme tout le monde. Alors on peut aller sur des forums, avoir quelques indications, mais ce n'est pas si simple. Et donc on a décidé de lancer ce site qui, donc allez-y, hein, rapidement.
Produitsdurables.fr, attention, produits et durables sont au pluriel, avec des S à la fin.
Exactement, au pluriel, parce que c'est des produits qui sont durables. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans ce site, c'est qu'on va avoir des notes des experts, avec des réparateurs qu'on va voir, et puis des sources qualifiées sur Internet, et puis des notes des consommateurs, où là on a des centaines, des milliers d'avis des consommateurs qui disent « voilà, ce bien est dur pas ». Donc déjà, ça nous aiguille pour savoir quel type de marque privilégier pour des objets. Et puis aussi, il y a des articles pour savoir comment réparer tel objet, comment l'entretenir, parce que c'est aussi notre faute aussi parfois. Et puis, comment lui donner une seconde vie. Donc, tous ces réflexes à avoir, on les a choisi de les rassembler sur cette page qui n'existait pas auparavant. Donc, on est assez fiers d'avoir lancé ça.
Et quand tu parles d'objets, je pense que les gens imaginent tout de suite le téléphone, l'ordinateur, mais il n'y a pas que ça, puisque l'obsolescence programmée, elle touche aussi l'automobile, par exemple, ou même les textiles. On a le fameux exemple des collants en nylon qui sont faits pour s'abîmer très vite, alors qu'en fait, il existe déjà depuis des dizaines d'années des techniques qui permettraient de les rendre inusables, en fait.
Exactement. On limite souvent l'obsolescence programmée à ces questions électriques, électroniques, et tu as raison de le rappeler. Le textile, toute la mode, la fast fashion, les t-shirts qui s'abîment en quelques utilisations, les collants surtout, les jeans, on a tous ces exemples-là, l'automobile, les meubles tout simplement aussi, hein, une fois qu'on les a démontés une fois, on ne peut plus les remonter, etc. Et tout ça, c'est différentes facettes, donc différentes techniques d'obsolescence qui vont avoir des niveaux de programmation, entre guillemets, d'un caractère plus ou moins délibéré de l'industriel, mais qui, de toute manière, contribuent à ce grand gaspillage des ressources sur notre planète et à l'accumulation des déchets qu'on constate.
Et là, donc, ce site est collaboratif, tout le monde peut aller laisser un avis. Pour rappel, c'est produit avec un S, durable avec un S.fr. Merci Samuel, on a déjà une bonne idée des missions de Halte à l'obsolescence programmée. Et toi, tu nous proposes une petite coupure, une coupure avec Boris Vian, c'est ça?
Exactement, une chanson qui montre l'accumulation d'objets qu'on peut vouloir avoir.
C'est incroyable cette chanson à plusieurs dizaines d'années et pourtant elle va sonner tout à fait d'actualité. C'est la complainte du progrès.
La complainte du progrès. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette. Le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauve-savate, au canon à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois.
Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi.
Mais je vous aime bien, Prévost.
Ce bien me crève le cœur.
Vous avez un cœur?
Oui, depuis que Valmont nous a fait rencontrer.
Vous devriez lui être reconnaissant, c'est rare aujourd'hui d'avoir un cœur.
Je le remercie.
En lui prenant sa femme.
Vous n'avez jamais envie de vous venger?
Pourquoi? Regardez autour de nous. Toutes les femmes s'ennuient autant avec leurs amants qu'avec leurs maris. Avec Valmont, je ne m'ennuie jamais.
C'est bien ma chance. Il y a encore à Paris une femme fidèle, et c'est la seule dont je sois amoureux.
Un conseil, Prévent. Essayez d'aimer Loulou du chemin.
On est de retour dans Ça commence par moi l'émission. Nous sommes toujours avec Samuel Sauvage, président de Hop, Halte à l'obsolescence programmée. Une musique terriblement d'actualité, hein.
Ouais, elle illustre aussi les révolutions permanentes qu'on nous vend. En fait, là, on a une accélération par exemple, iPhone, c'est tous les 6 mois, à chaque fois qu'il y a un nouvel appareil qui sort et qui va changer notre expérience. Et puis là, on a quoi? On a les repasses limaces, on a plein de choses qui n'existent pas du tout, mais on va créer un besoin et puis on va montrer que c'est utile. Mmh. Et ça s'est accéléré. Là, déjà, c'était il y a quand? C'était dans les années... Il y a
60, j'aurais dit, ouais.
Même avant,
peut-être. C'est censé nous libérer. En fait, ça nous prive de notre autonomie.
Exactement, ça nous prive de notre autonomie, parce qu'à chaque fois, on a des appareils plus complexes. Et donc, c'est un phénomène technique, je pense, qui a été bien documenté par un penseur comme Simondon, par exemple, qui disait, voilà, on sait de moins en moins comment nos objets marchent, donc on est de plus en plus esclaves de nos objets quand il y a un problème. Et puis, on sait de moins en moins pourquoi on a ces objets, quoi. Pourquoi est-ce qu'on a ce progrès technique? Ça répond à quel usage, finalement?
Ouais. C'est le progrès pour le progrès. Ça nous permet d'entrer dans la deuxième partie que je veux toujours plus profonde pour parler d'obsolescence programmée. On a montré qu'il existait des solutions pour lutter contre cette obsolescence. On peut acheter plus intelligemment, tu l'as dit, on peut réparer, on peut interpeller les fabricants. Mais finalement, ce qu'il y a derrière ça, c'est attaquer le cœur du problème. C'est en fait même questionner notre système matérialiste, non?
Oui, et puis cette société de croissance dans laquelle on est plongé, puisqu'on se rend bien compte qu'on est sur une croissance où il faut vendre soit de plus en plus d'objets, soit de plus en plus cher, finalement. Bon, le vendre de plus en plus cher pour gagner plus, ça a ses limites. Et donc, au bout d'un moment, eh bien, il faut vendre plus. Or, si les citoyens sont déjà équipés de différents appareils, eh bien, ils ne vont pas en racheter. On ne va pas avoir 2 aspirateurs, on ne va pas avoir 2 réfrigérateurs, 2 lave-linges. Et donc, au bout d'un moment, il est évident qu'on a intérêt à ce que la durée de vie soit raccourcie pour qu'il y ait donc tel ou tel problème. Et puis, avec une bonne excuse, en montrant que le nouveau modèle, il est incroyable, une nouvelle couleur, une nouvelle fonctionnalité. Et donc, comme ça, on renouvelle les achats et on donne l'impression que le consommateur est de plus en plus heureux parce qu'il a de nouveaux appareils. Mais finalement, on avait un aspirateur, on en a un nouveau maintenant. C'est pas pour ça qu'on est plus heureux. Et donc, on est vraiment sur cette course à la consommation. Je pense qu'on doit condamner en tant que tel parce qu'elle est au cœur de notre système économique, aussi un système qui nous mène dans le mur en termes de changement climatique notamment. Donc, quand on questionne l'obsolescence programmée, finalement, tout le monde est d'accord pour dire « c'est dégueulasse que mon appareil tombe en panne du jour au lendemain, etc. » Mais si on déroule la pelote, on se rend compte « ah oui, mais pourquoi il y a ces phénomènes ?» Eh oui, c'est parce qu'il faut toujours plus consommer, parce qu'il faut toujours plus de croissance. Et finalement, on peut amener à s'interroger sur les finalités de notre modèle, et c'est surtout vivre mieux, bien-être, bonheur, plutôt que croissance matérielle. De nos objets. Donc là, je pense qu'à travers ce combat, on peut avoir un combat beaucoup plus profond et philosophique sur qu'est-ce qu'on poursuit ensemble dans notre société.
Tu l'as très bien dit, hein. Effectivement, le monde de l'entreprise ne jure que par la croissance, alors que finalement, il devrait peut-être plus viser l'efficience. On a eu ce terrible exemple, pas plus tard qu'il y a hier, il me semble, ou avant-hier, avec Amazon qui, en 2018, aurait jeté en France 3,2 millions de produits invendus. Donc jeter littéralement, puisqu'en fait, il y a Amazon dans ses entrepôts loue des espaces à des vendeurs tiers, et ces espaces coûtent de plus en plus cher. Et donc, pour certains vendeurs qui sont notamment basés dans d'autres continents, en Chine en général, et ben en fait, ça revient plus cher de faire rapatrier ces produits. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ils déclarent simplement qu'ils n'en ont plus besoin et ils donnent à Amazon la possibilité de les détruire. Et donc, on a rien que pour Amazon, bon, qui est quand même la grosse machine, 3,2 millions de produits invendus qui ont été détruits en 2018. C'est plus possible.
C'est plus possible, mais c'est complètement compréhensible parce que les entreprises ne payent pas le vrai prix de nos ressources. On sait qu'on va manquer d'un certain nombre de minéraux dans 10, 20, 30 ans, d'argent, de zinc, de cobalt, etc. Donc déjà, en réalité, c'est bien là, ils devraient être beaucoup plus chers parce qu'ils sont basés sur des ressources rares. Et ce phénomène d'Amazon qui préfère détruire plutôt que réparer, réutiliser, etc., on le voit souvent dans l'électroménager où on nous propose l'échange à neuf, par exemple quand un bien est encore sous garantie, plutôt que le réparer. Et donc, parce que voilà, on a vraiment inversé l'ordre des priorités. où ça revient moins cher de refaire quelque chose de neuf parce que c'est fabriqué à l'autre bout de la planète, etc., plutôt que de réparer. Alors qu'on se rend bien compte qu'il y a une petite pièce à réparer, il suffit de la prendre, de démonter, d'en remettre une, et que c'est beaucoup plus efficient. On utilise moins de ressources, on utilise moins d'énergie, etc. C'est local, ça fait de l'emploi local d'ailleurs. Mais non, le système est ainsi fait que pour beaucoup d'entreprises, eh bien, ça revient moins cher de faire autrement, de gaspiller. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et nous, on est là pour condamner ça, pour le dénoncer, pour montrer que nous, citoyens, on ne veut pas que ça continue. Et puis, pour pousser l'État aussi à interdire certaines pratiques, à inciter à faire autrement.
Justement, tu dis nous, citoyens, à Halte à l'obsolescence programmée, ça fait quelques années là, maintenant que vous êtes la tête dans le guidon, devenus des experts, des spécialistes de ces sujets. Est-ce que tu vas dans mon sens quand je te dis qu'on assiste à un réveil aussi de la part des citoyens qui sont, eux, de plus en plus en train de passer d'une économie de la propriété à une économie de la fonctionnalité, et que ça pourrait potentiellement entraîner tous des pans de l'économie aussi qui feraient que les grandes entreprises arrêtent de nous louer, de nous vendre des produits, mais plutôt que nous louer des services. Est-ce que c'est ça l'avenir ?
Ça, c'est une partie de l'avenir, je pense, et vraiment une forte solution contre l'obsolescence programmée, parce que dans ce cas-là, l'industriel, il a intérêt à ce que le produit dure longtemps, puisqu'il le loue, et le consommateur est content, puisqu'il continue à en bénéficier des usages. Et ce n'est pas une utopie, hein, ça existe dans beaucoup d'entreprises.
Quels exemples tu connais, toi, ouais?
Bah alors, ceux qui sont connus, c'est ceux de Michelin avec les pneus qui sont loués. Donc, ils vendent des kilomètres plutôt que le pneu en tant que tel. Xerox avec les photocopies. Mais il y a par exemple Telmi, je crois, qui loue des fringues pour gamins, pour bébés ou pour femmes enceintes. Donc, il y a plein de modèles dans lesquels on peut louer des usages, sans parler d'Autolib, Vélib, etc. Plutôt qu'acheter un bien en tant que tel. Et ça, c'est une partie vraiment de la solution. Je pense qu'on a un réveil citoyen, pour revenir au début de ta question. On a de plus en plus de citoyens qui veulent agir à leur échelle. Et le succès aussi de Ça commence par moi, il en est une illustration. Néanmoins, on reste une minorité. Je pense qu'on ne peut pas compter seulement là-dessus. On peut compter sur nous, citoyens, comme détonateurs, pour mettre la pression. Parce que les boîtes, elles vont voir qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un marché aussi, c'est-à-dire qu'en vendant des produits durables, elles vont pouvoir vendre aussi à ces marchés-là. Et puis, mettre la pression aux politiques, qui voient que, bon, bah, électoralement, ils ont intérêt aussi à ce que les gens les aiment bien. Et donc, si les gens sont attachés à la durabilité des produits, eh bien, il faut qu'ils fassent des choses dans ce sens-là. Et donc, qu'il y ait de plus en plus de réglementations en ce sens. Donc, et c'est grâce au fait qu'il y a une minorité de citoyens engagés qui met la pression à un autre niveau, ensuite plus macro pour les entreprises ou l'État, qu'après on peut avoir des incitations plus grandes qui vont faire que tout le monde va se tourner vers cette consommation responsable.
Tu le dis, les citoyens ont vraiment ce rôle de détonateur. Je voulais justement en venir au rôle des gouvernants. Les gouvernants vont du coup devoir accepter leur schizophrénie, qui va être de dire oui pour la réparabilité, oui pour aller dans ce sens de la lutte contre l'obsolescence programmée, dans l'utilisation de moins en moins de ressources, et à la fois l'État, pour l'instant, n'accepte d'être mesuré que par le maître de la croissance. Donc ils sont piégés. Comment ils font ? Comment vous les voyez dans les interactions ? On a Brune Poirson qui, d'un côté, dit non, c'est pas possible, Amazon c'est un scandale, on va mettre des lois. Mais d'un autre côté, on a le ministre de l'économie, le premier ministre et notre président qui ont qu'un mot à la bouche, celui de la croissance. Comment on conjugue l'équation ?
Alors, c'est un long programme, je pense.
Mais ce qui m'intéresse, c'est toi, comment tu les vois, ces gouvernants ?
Et je les vois avancer insuffisamment. Ce que je pense, c'est qu'on est dans on ne peut pas gagner tout de suite sur tout ce changement de paradigme qui est nécessaire. Et que là, pour l'instant, on arrive à avoir des petits pas qui remettent pas en cause fondamentalement le modèle de la croissance. Donc, ils sont clairement insuffisants. Mais malgré tout, le gouvernement, là, il s'est engagé à mettre en place un affichage de la réparabilité des biens en 2020, des biens électroménagers électroniques. Donc là, ça va déjà être une avancée, puisque quand on ira dans un magasin, on pourra savoir avoir une note de réparabilité des produits. Par exemple, bon, bah, c'est une victoire un peu de notre plaidoyer, donc on en est content à Hop, mais on est tellement conscient que c'est insuffisant, parce que c'est vrai que l'État, il est dopé à la croissance, mais aussi ses recettes fiscales en dépendent, avec la TVA notamment. Et donc, il y a, je pense, un travail de conviction plus profond à faire que le fait de dire « Ah, il y a quelques abus ». Mais non, c'est pas quelques abus. C'est l'ensemble d'un système qui va dans le mur. Donc là, je pense que c'est improbable que le gouvernement actuel fasse cette volte-face. Mais bon, déjà, il faut déjà prendre quelques avancées avec eux et puis espérer que les mentalités évoluent pour que le prochain gouvernement soit sur d'autres étalons de richesse, qui voient que finalement notre capital naturel, par exemple, toutes nos ressources, l'eau, l'air, l'énergie, toutes ces choses-là, eh bien, il faut en prendre soin à long terme et donc produire différemment.
Et en plus, tu l'as dit dès le début de l'émission, notre lien aux produits, notre lien aux choses, aux objets est vicié. On en est dépendant, alors qu'en fait, c'est l'intérêt d'avoir des objets, finalement, c'est de nous libérer, qu'on soit plus heureux. C'est ça, la vraie finalité.
Et on passe à côté. Il y a pas mal d'études d'économie du bonheur qui montrent que, certes, quand on est très pauvre, avoir plus d'argent, ça nous aide à être plus heureux parce qu'on répond à des biens, on s'alimente mieux, on a de la santé. Ça, il n'y a pas de doute. Avoir un minimum d'argent, ça aide à être plus heureux. Mais au bout d'un certain moment, être beaucoup plus riche ou encore plus riche, eh bien, ça n'apporte pas plus de bonheur. Et donc là, je pense que dans nos économies, on est arrivé plus à un stade où aujourd'hui, il faut davantage gérer nos ressources. Ça veut dire quoi, les gérer? Ça veut dire aussi mieux les partager. C'est-à-dire que, vu qu'il y en a certains en abusent et que d'autres n'en ont pas assez, eh bien, il y a un juste partage des ressources à faire au sein d'un pays pour que tout le monde vive bien. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire avoir éventuellement plus de temps libre, c'est-à-dire moins de temps à fabriquer des objets inutiles et à les acheter les week-ends dans les centres commerciaux, mais plus à aller voir les amis, la famille, aller à des concerts, etc. Donc déjà, ça peut être un facteur de bonheur. Et puis aussi, créer des emplois locaux au lieu de se reposer sur la fabrication à l'autre bout du monde. Finalement, tous les biens qu'on achète, ils créent peu d'emplois ici. Si ce n'est ceux qui les vendent, peut-être, mais on pourrait faire plein d'emplois dans la réparation. Si on faisait de la location, bah, ça oblige à être sur place quand même pour louer, pour faire la relation. Donc tous ces autres modèles, ils sont beaucoup plus proches, beaucoup plus locaux. Ça fait qu'on peut avoir un boulot, ne pas travailler en burn-out, avoir du temps pour les autres. Et puis, je pense que cette utopie-là, il faut qu'on la pousse ensemble. Et elle peut passer par une autre consommation, se limiter à ce dont on a besoin, ce qui nous rend heureux en peut-être reprenant le pouvoir aussi sur les messages publicitaires.
Tu réponds quand même à deux grands clichés qui sont oui, mais en même temps, en fait, on sera moins heureux si on consomme moins, alors qu'en fait, moins consommer et revoir notre relation aux objets, c'est se libérer. Et ça, on ne le lit pas assez, donc c'est génial de te l'entendre dire. Et ce qu'on m'oppose aussi, et ce qu'on nous oppose en général quand on parle, on re-questionne cette relation aux objets, à la croissance, à l'économie, c'est aussi de dire oui, mais donc il y aura moins d'emplois, pas forcément, on aura plus d'emplois locaux, d'autres emplois, et notamment des emplois de réparateurs, des emplois de personnes qui mettront en relation les gens qui ont des produits et d'autres qui en ont besoin. Bref, ça aussi, ça peut être aussi une économie plus vertueuse. Pour terminer, Samuel, est-ce que tu peux nous redire, s'il te plaît, pour les gens qui nous ont écoutés et qui se sont dit « Mais attends, bien sûr, et moi aussi j'ai envie de prendre part à tout ça », comment ils peuvent vous aider chez Hop et quel site ils peuvent consulter pour devenir des consommateurs plus vertueux?
Merci Julien. Notre site c'est www.haltobsolescence.org. Et c'est important que vous nous rejoigniez. Il y a un petit onglet, rejoignez-nous. Alors certes, vous pouvez donner, ça nous aide toujours, mais même si vous ne pouvez pas, vous pouvez toujours aussi simplement nous rejoindre, signer notre manifeste. Parce que quand on va voir les gouvernants, les entreprises, on dit qu'on est 35 000, et il faudrait qu'on soit 40 000, 50 000, 60 000. Donc, ça nous donne du poids, en fait, dans notre action. Et ça nous montre aussi qu'on ne se bat pas dans le vide et que les citoyens nous soutiennent. Donc, c'est important de nous rejoindre, effectivement, et nous aider à mener tous les combats qu'on mène peu à peu. Alors voilà, on n'est pas au bout de notre chemin, il y a beaucoup à faire, mais déjà, je pense que c'est un combat important et c'est merci d'avoir donné l'occasion de le faire davantage connaître.
Avec plaisir. Bientôt, les 2 millions de signataires de l'Affaire du siècle rejoindront Hop, j'en suis sûr. Et pour rappel, pour les consommateurs durables en herbe, on vous invite à rejoindre le site internet produit avec un S durable avec un S.fr. Et voilà, ça commence par moi l'émission, c'est terminé. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie et de vous avoir donné de nouvelles pistes à explorer pour faire de 2019 l'année de l'éco-citoyenneté. On va agir, on va changer les choses, on lâche rien. Merci à Raj pour son soutien, merci à Raph à la technique. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, moi je vous donne rendez-vous sur Raj.fr ou sur iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!
Construire un monde plus humain, ça commence par nous. Avec le Crédit Coopératif, ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.